Bonjour à tous. Ça va bien? On est peu nombreux ce matin. On va commencer quand même. Je vous invite à tourner avec moi dans Jean au chapitre 13. Bonjour. Jean chapitre 13. Température de l'automne qui nous donne le goût de dormir un peu plus, hein? La semaine passée, il y en a qui sont arrivés plus tôt à cause qu'ils n'avaient pas reculé l'heure. On avait une grande salle, on avait une salle remplie, mais cette semaine, c'est plus difficile. Jean 13, je vais lire à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Un peu plus loin, au verset 34, Jésus va poursuivre en disant à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On va se courir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on se présente devant toi ce matin, reconnaissant notre faiblesse, reconnaissant nos faiblesses, Seigneur, multiples. Lorsque vient le temps de considérer nos cœurs devant toi, Seigneur, on réalise que si ce n'était de toi, on ne serait pas digne de pouvoir se présenter devant toi. Mais un jour, Seigneur, dans ta grâce, tu es venu nous visiter, tu es venu nous rencontrer. En venant sur cette terre pour nous montrer un exemple, mais aussi pour te livrer à la croix, pour te livrer entièrement, pour venir nous servir en donnant ta vie pour nous. Et Seigneur, un jour, tu nous as rencontrés, chacun de nous individuellement sur notre route. Tu es venu nous à notre rencontre pour qu'on puisse reconnaître que tu es le Seigneur, que tu es le Maître. Reconnaître que tu es celui qui sauve, qui pardonne les péchés. Et Seigneur, lorsque nous sommes baignés dans le sang de l'agneau, nous sommes purs de tout péché parce que tu as été livré en sacrifice pour nous et ton sang versé est le sacrifice parfait pour nous. Seigneur Jésus, merci de toi qui es le Seigneur et le Maître, de t'être abaissé, d'être venu te donner pour nous pour qu'on puisse être rendu pur devant toi. Et maintenant, on se présente à toi, on veut apporter nos cœurs devant toi, Seigneur, nos cœurs chargés, parfois avec des tracas, des soucis, des inquiétudes. On veut t'apporter notre cœur qui est peut-être dans la tristesse ou dans la joie, selon les situations que tu permets dans nos vies, Seigneur. Mais peu importe, on veut venir devant toi et t'apporter nos cœurs afin que tu puisses venir faire ton œuvre en nous ce matin. Ce passage est précieux, Seigneur, parce que dans ce passage, nous voyons le commandement que tu nous donnes de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Et Seigneur, si ce n'était que par toi, ce serait impossible pour nous d'obéir à ce commandement. Mais par ta grâce et par ton esprit qui vit en nous, Seigneur, c'est possible. Et viens par ton esprit de nous remplir ce matin afin qu'on puisse être attentif à l'enseignement de ta parole et qu'on puisse mettre en pratique, à être heureux en pratiquant ta volonté dans nos vies, Seigneur. Viens bénir ce temps ensemble. Que ce matin, malgré ce temps pluvieux, on puisse avoir la joie d'être dans ta présence. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. On a commencé la semaine dernière la septième leçon sur aimer Dieu à travers l'adoration et le service. Et puis, je réalisais que, comme d'habitude, des fois, je m'attarde un peu plus sur certains aspects. Et puis, on a pris le temps ensemble de regarder l'adoration. Et une des choses qu'on considérait, c'est lorsqu'on vient pour adorer Dieu, que ce soit personnellement, dans notre temps personnel avec Dieu ou en église, on a besoin d'arriver devant Dieu avec des cœurs remplis d'amour pour Dieu, mais des cœurs aussi qui sont préparés à le rencontrer. Et ce matin, j'espère que je réfléchissais encore à ça ce matin. Seigneur, je veux préparer mon cœur à te rencontrer, mais ce qu'on veut offrir à Dieu, c'est des cœurs entiers, des cœurs qui viennent sincèrement l'adorer, le louer, qui viennent dans sa présence. Mais un autre aspect de l'adoration, c'est le service. Et nous avons défini le service comme étant l'adoration comme la louange que nous donnons à Dieu, l'expression de nos cœurs envers Dieu, alors que le service, c'est l'expression de notre amour envers les frères et sœurs. Et par cela, on exprime aussi l'amour pour Dieu. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné ce commandement, de nous aimer les uns les autres, d'être là pour servir. Et lorsque nous servons nos frères et sœurs, nous sommes au service du Seigneur. Et ce matin, on va prendre un peu plus de temps dans cet aspect du service. Du service comme qui parfois est vu comme un supplément à notre relation personnelle avec Dieu. C'est comme si ma relation personnelle avec Dieu puis le service, c'est comme deux choses différentes. On a tendance à voir notre relation intime avec Dieu comme le temps dans la parole, le temps dans la prière, le temps dans la louange. Et là, on exprime nos cœurs à Dieu. C'est comme si on est plus en intimité avec Dieu lorsqu'on est en train d'exercer ces disciplines, si je peux les appeler comme ça, spirituelles, intimes ou plus personnelles avec Dieu. Mais le service est intimement lié à l'adoration pour Dieu. Le service envers les frères et sœurs, l'amour envers les frères et sœurs est intimement lié à notre relation personnelle avec Dieu. Et on va voir ensemble un peu plus comment le service envers les frères et sœurs contribue à nous approcher de Dieu. Et ça peut être un peu spécial la manière que je l'exprime, mais vous allez voir un peu plus loin. Comment le service pour le Seigneur envers les frères et sœurs peut nous travailler à nous rapprocher de Dieu. Alors le service, ça peut prendre plusieurs formes, comme je l'exprimais la semaine passée. On peut enseigner aux jeunes à l'école du dimanche, on peut venir servir à Bouffe pour tous, aider des frères et sœurs qui sont dans le besoin. On peut aller garder des enfants à la garderie, à la pouponnière. On peut laver les planchers aussi. On peut faire toutes sortes de choses. Mais une des choses qui est derrière toutes ces activités-là, c'est le service envers les frères et sœurs. Si je lave le plancher à l'église, c'est un peu comme si je reçois chez nous, hier, on recevait les flaos pour dîner. Et puis, après une semaine avec des jeunes enfants, le plancher de la cuisine, il commence à être un peu sale. Qu'est-ce que je fais? Mais je veux accueillir les flaos bien. Je veux que ma maison soit bien. Mais hier matin, j'ai lavé les planchers pour bien accueillir les flaos chez nous, puis que ce soit un temps soit peu propre chez nous. Alors, la même chose à l'église. Lorsque on vient et puis on prend soin du bâtiment ou on vient servir dans un ministère, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vouloir servir nos frères et sœurs, bien accueillir, s'accueillir les uns les autres, s'entraider les uns les autres. Alors, il y a des ministères qui peuvent être visibles, Mais bien souvent, les ministères dans l'Église et le service, c'est quelque chose qui est invisible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui se fait, qui est dans l'ombre. Et puis, comme être humain, avec notre nature pécheresse, c'est pas ce qu'on recherche nécessairement, de travailler dans l'ombre. On aime ça avoir des positions peut-être plus visibles, d'être reconnu pour notre service. Et des fois, le fait de ne pas être reconnu ou même d'avoir même pas un merci pour être venu servir à l'Église puis de s'être donné, des fois, ça nous affecte. Puis ça affecte notre service envers nos frères et sœurs. On est ici pour se donner, mais en même temps, avec notre nature, des fois, on s'attend à une reconnaissance. Et ce qui n'est pas mal en soi, je pense qu'on devrait être reconnaissant les uns envers les autres, envers le service que nos frères et sœurs font envers nous. Mais en même temps, on devrait être là premièrement pour servir Dieu à travers le service des frères et sœurs. C'est Jésus qui, pas Jésus, mais Paul qui dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Fait que lorsque je suis en train de servir les hommes, je suis en train de servir Dieu. Et lorsque je suis en train de servir, même dans les tâches les plus ingrates peut-être, ou humbles, si je peux dire, je suis en train de servir Dieu. Et le Père qui est dans le ciel, qui est dans le secret, va nous le rendre un jour. Mais c'est important de réaliser ça, que parfois nos cœurs ont de la difficulté à venir servir Dieu parce qu'on veut être reconnu pour ce qu'on fait. Puis parfois, la déception par rapport à un service dans le ministère nous amène à nous éloigner un petit peu du service, de dire, ben finalement, si je me donne, puis c'est tout le temps moi qui se donne, puis finalement, je vais prendre un break, là, je vais venir m'asseoir le dimanche matin, puis peut-être que là, ils vont se rendre compte que j'étais utile finalement. Peut-être qu'ils vont vouloir me revoir, puis là, ils vont m'exprimer leur gratitude. C'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça. Et puis, c'est un sentiment qui peut nous animer. Mais dans un sens, ce qu'on cherche à faire à travers le service, c'est adorer Dieu premièrement, glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Puis si on veut retrouver notre passion pour servir Dieu et servir les frères et sœurs, on doit considérer bibliquement ce qui devrait nous motiver à servir Dieu et servir nos frères et sœurs. Et donc, on va voir ensemble 5 éléments qui devraient nous motiver pour le service. Premièrement, le service envers les frères et sœurs, comme je le dis toujours, là, je sers mes frères et sœurs, je suis en train de servir Dieu parce que je suis en train de glorifier Dieu à travers ça. Ça devrait être motivé par l'obéissance. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui dit dans Deutéronome 13, 4, il dit, « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Premièrement, si on veut servir nos frères et sœurs, c'est parce qu'on veut servir Dieu. On veut entrer dans l'obéissance à Dieu. Nos vies, une fois... racheté par le sang de Christ, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un changement qui se passe dans ma vie. Dieu devient mon Dieu personnel, celui que je veux adorer, celui que je veux servir, je veux accomplir sa volonté dans ma vie, et puis je veux lui obéir. Et maintenant, obéir à Dieu veut dire le servir. Ça veut dire que mon corps, tout mon être va servir à la gloire de Dieu. Et si on veut servir, c'est premièrement parce que Dieu le demande. Et lorsqu'on considère ce que Jésus a fait pour nous, ça nous motive aussi à l'obéissance. Imaginez si un ange de Dieu, Dieu s'approche d'un de ses anges, puis Dieu lui dit, écoute, Gabriel, j'aimerais te donner une mission aujourd'hui, tu vas aller rencontrer telle personne, ou mettons Marie dans le Nouveau Testament, ou tu vas aller accomplir telle œuvre aujourd'hui. Imaginez Gabriel se tourne vers Dieu et dit, ah non, pas aujourd'hui, ça me tente pas, ça me tente de rester assis aujourd'hui, ça m'intéresse pas. On ne peut pas s'imaginer ça, c'est impossible. Hein? Les anges sont au service de Dieu, ils exécutent les ordres de Dieu, ils sont là à son service. Et ils sont dans un sens des exemples pour nous, des modèles pour nous. Lorsque Dieu nous demande de le servir, on peut pas rester assis puis dire, ah non, Seigneur, pas aujourd'hui, ça me tente pas. On doit être passé à l'action et dire, Seigneur, je veux t'obéir. Je vais passer à l'action. Je ferai pas comme, je serai pas rebelle à toi, mais je veux te servir. Donc, une réponse comme « je veux pas te servir », ça n'a pas de sens, parce qu'on veut obéir à Dieu. Et dans Deutéronome 13, c'est ce que le Seigneur dit, « vous obéirez à sa voix, vous le servirez ». Donc, c'est Moïse qui dit ça au peuple, « vous obéirez à la voix de l'Éternel ». Donc, ça, c'est la première motivation pour le service, c'est l'obéissance. Maintenant, le service, on peut voir l'obéissance comme, OK, ben là, il y a des ordres. Dieu nous demande de le servir. Fait que je suis obligé. Fait que je vais servir Dieu sans d'autres motivations. Mais il y a d'autres motivations qui apportent la joie, qui apportent le désir de servir Dieu. Par l'obéissance, c'est premièrement parce que je veux être soumis à Dieu. Je veux être reconnaissant. Je veux donner ma vie à Dieu. Mais il y a aussi la reconnaissance. Notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Lorsqu'on se rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous et qu'on apprécie, c'est qu'on apprécie réellement toute l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. C'est plus un fardeau. C'est pas un fardeau de le servir. Ça devrait pas l'être, en tout cas. On devrait être prêt à tout pour lui en reconnaissance de ce qu'il a fait. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Ésaïe 6. Et on va lire, on a lu ce passage-là au début de la session, mais je veux retourner pour le lire. Qu'est-ce qui motive qu'est-ce qui nous motive dans le service envers les frères et sœurs? C'est une reconnaissance à Dieu. Et on le voit, entre autres, avec Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6. Je vais lire les versets 5 à 8. Alors, c'est Ésaïe qui est devant, vous vous souvenez, là, il y a une vision, il est devant le trône de Dieu, il voit la gloire de Dieu. Il dit, verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Devant l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous, le fait qu'on était indigne de se présenter devant lui, et on voit à travers le verset 6, entre autres, toute l'œuvre de la purification des péchés. Et on voit comment Dieu l'a réalisé en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et lorsque Jésus-Christ entre dans ma vie, lorsqu'il vient faire son œuvre dans mon cœur, il me purifie de mes péchés, il fait en sorte que je peux me présenter devant ce Dieu saint, devant ce Dieu majestueux, et puis je peux maintenant le servir et je peux, à place de recevoir sur moi la condamnation, Jésus le subit pour moi. Et maintenant, Dieu me rend capable de le servir. Et qu'est-ce que Ésaïe répond? À cause du pardon des péchés, maintenant je suis pas digne d'être devant toi, mais tu demandes que j'aille. Qui m'enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer pour parler à ce peuple? Qui est-ce que je vais envoyer pour me servir devant ce que Christ a fait pour moi? Ma réponse, ça devrait être ça. Moi, Seigneur, moi, je vais y aller. Moi, je vais aller te servir parce que ce que tu as accompli pour moi, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Moi, je vais être là. Je vais te servir. Et puis, par la grâce de Dieu, le Seigneur, je pense que on va voir plus loin que le Seigneur nous donne des dons. Puis un des dons, que le Seigneur m'a donné, c'est le don de service. Moi, j'aime être au service. Des fois, j'aurais besoin d'exercer ce don-là plus envers mon épouse. Mais dans l'Église, là, souvent, là, quand je me souviens, j'avais 16, 17, 18, 19, 20 ans, un jeune homme. Besoin d'aide? Oui, ramasser les tables. OK, on va être là. Des fois, là, on a besoin de 10 hommes pour aller ramasser. Là, on va 1, 2, 1, 3, c'est difficile. Par reconnaissance à Dieu, le Seigneur m'a même équipé d'un certain don. Je dis, moi, je vais être là, je vais servir. Je suis premier à lever la main. C'est pas par orgueil que je dis ça, c'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a donné ce désir-là d'être là pour servir. Et tranquillement, le Seigneur m'a fait grandir dans le service. Mais face à ce que Dieu a accompli pour moi en Jésus-Christ, par reconnaissance à ce que Dieu a accompli. Moi, je vais être là, je veux servir. Je vais être là pour servir mes frères et sœurs. Je vais être là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et donc, ça, c'est une autre motivation. À cause de ce que le Seigneur a fait pour moi, je veux dire, me voici, je suis là, envoie-moi, je vais être là pour te servir, Seigneur. Et deuxième motivation. La troisième, qui vient de toute cette œuvre aussi, de toute l'œuvre que Dieu a fait dans ma vie, c'est la joie. Le service, ça ne devrait pas être un fardeau ou quelque chose de pénible à porter, mais on devrait pouvoir servir Dieu dans la joie. Comme je disais tout à l'heure, tout ce que vous faites, pour tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, la joie devrait être en train d'animer mon service. Et en méditant sur ce que Christ a fait pour nous, on ne devrait pas seulement être rempli de reconnaissance envers Dieu, mais aussi on devrait avoir nos cœurs remplis de joie à servir Dieu. Notre service ne devrait pas être caractérisé par des plaintes ou des murmures, mais plutôt par la joie de servir un si grand Dieu. Dans le psaume 100, verset 2, le psalmiste dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. » Et lorsque je viens pour servir mes frères et sœurs, servir Dieu, je devrais le faire avec joie. Ça arrive souvent, des fois, je demande des choses à mes enfants. « Nathan, va me chercher telle chose au sous-sol » ou « lâche l'iPad un petit peu puis va ramasser ton pyjama que tu as laissé traîner. » C'est pas souvent avec joie, hein, dans ce temps-là, que le service est... C'est comme « Oh là, je vais le faire, là, OK. » Là, mais... Tout le temps en train de chialer. J'étais de même, moi aussi. Quand on est jeune... Puis même des fois encore, on y va un peu avec des murmures. Mais ça ne devrait pas être avec des murmures. Puis des. Lorsqu'on vient pour servir Dieu, il ne devrait pas avoir des murmures qui accompagnent ça. « Oh, là, je t'en ai, moi, de tout le temps ramasser puis de balayer le plancher à l'église, là. Puis là, servir les... Ah, la garderie. Ah non, moi, matin avec les enfants. Ah non, ça me tente pas. » Notre attitude devrait être au contraire, dire... Mes frères et sœurs qui ont des jeunes enfants, ils veulent entendre la parole de Dieu. Puis ils ne veulent pas avoir à gérer leurs enfants tout le long de la prédication. Des enfants qui peuvent déranger même des gens qui écoutent l'Évangile à travers la prédication. Pour glorifier Dieu, je devrais être prêt à dire, « Oui, je vais aller dans un ministère plus humble ce matin. Ça me tentait d'entendre la prédication, mais je vais permettre d'autres d'entendre et d'être à l'écoute puis d'être attentif. Je vais aller servir. » C'est pas souvent ça la motivation. Moi, une des choses, c'est quand tu vas servir à la garderie, tu contribues à l'évangélisation. Ouais, de quoi tu parles? Oui! Parce que combien de fois j'ai vu des enfants venir déranger le moment où le prédicateur prêche l'évangile dans une prédication? Même, Satan est à l'œuvre, c'est un combat spirituel, mais ça arrivait souvent. Mon père prêchait l'Évangile, il recevait des gens chez nous, puis il prêchait l'Évangile. Il dit, les fois qu'on invitait du monde spécialement pour leur présenter l'Évangile, vous étiez tannant! Vous dérangiez tout le temps, ça n'avait pas d'allure, on se demandait pourquoi, qu'est-ce qui se passait, mais on était en train de prêcher l'Évangile. Mais des fois, dans l'Église, si on veut que l'Évangile soit prêché, que les gens soient attentifs, on a besoin d'être là pour servir et aider dans les ministères un peu plus humbles. Alors, quand je dis, quand vous allez à la garderie, à la pouponnière, je vous encourage parce que vous contribuez à ce que quelqu'un entende attentivement le message, la parole, pour qu'il puisse l'appliquer. Et puis, ça arrive souvent, comme j'ai dit, des fois, les dimanches matins, c'est arrivé dans le passé, là, je disais, tout le long du message, on n'entendait rien. Et là, tout d'un coup, là, au moment où il commence à présenter plus clairement l'Évangile, ça se met à broyer. Seigneur, éteins-le pour que la personne se concentre. Ça arrive trop souvent. Alors, voyez ça, dans les ministères plus humbles, on est là pour servir Dieu aussi. On est en train de faire l'œuvre de Dieu à travers des ministères plus humbles. Et on devrait le faire avec joie. Comme moi, ça me réjouit lorsque... Je vais demander à mon enfant de rendre un service, puis qu'il le fait sans murmurer, puis qu'il le fait avec joie. Ça me réjouit. On veut réjouir le cœur de Dieu aussi, en allant le servir avec joie, avec des cœurs remplis de sa joie. Et on a besoin que le Seigneur par son esprit, nous transforme pour qu'on puisse vivre le service dans la joie. Une autre motivation pour le service, c'est l'humilité. Et c'est ce qu'on a un peu lu ce matin dans Jean 13. Et comme le problème un peu que j'adressais tout à l'heure, c'est une des tendances de notre nature pécheresse, c'est d'être reconnu pour, de vouloir être reconnu pour ce qu'on fait dans le service. Mais ce genre d'attitude-là, c'est de l'orgueil. Puis le Seigneur, il nous a montré entièrement le contraire. Celui qui méritait toute la gloire, toute l'honneur, il a tout abandonné pour venir servir. Et le Seigneur Jésus était un exemple pour nous. Il dit, je vous ai fait ça pour vous servir d'exemple. Notre service devrait, au contraire, suivre l'exemple de Jésus et être caractérisé par l'humilité. C'est le parfait exemple de service. Dans Jean 13, Jésus est allé, ça nous dit, il a mis le comble à son amour pour eux. Il a enlevé ses vêtements et est allé leur laver les pieds. Il y avait quelque chose de culturellement très humiliant dans le fait de laver les pieds. Et puis, Jésus était prêt à le faire et mis le comble à son amour pour eux jusqu'à aller laver les pieds. Trouvez le ministère le plus humble. Je pourrais réfléchir à ça un petit peu. C'est quoi le ministère le plus humble dans l'Église? Dire, moi, je vais être là. Je vais être là pour, comme Jésus, je vais être là pour servir. Être prêt à laver les pieds de mes frères et sœurs. L'équivalent, si je peux dire aujourd'hui. Être là pour servir. Des fois, c'est d'aller aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, une maman qui est à la maison avec un nouveau-né, des fois. Le ministère humble, on ne le voit pas, c'est dans l'ombre. On devrait être là à l'exemple de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, c'est un trop beau passage pour que je n'aille pas le lire. Philippiens 2, où Jésus est notre exemple d'humilité. Philippiens 2, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples, mais encore plus. Encore plus. Philippiens 2, verset 3, il dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et ensuite de ça, on voit que Dieu l'a élevé, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il était prêt à se rendre obéissant pour se rendre jusqu'à la mort de la croix, se livrer en sacrifice pour des pécheurs qui ne méritaient rien, qui méritaient juste l'enfer, la condamnation éternelle. Jésus s'est humilié. Il était prêt à servir. Il nous demande de suivre cet exemple-là, d'être prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs. On l'a vu un petit peu la semaine passée dans la prédication avec notre frère Basile. On doit être prêt à donner notre vie, à aimer nos frères et sœurs ardemment, puis être prêt à se donner entièrement pour eux, à l'exemple de Jésus. Et ça devrait être une motivation. L'humilité, là, une motivation, normalement, ça n'en est pas une, mais par l'Esprit de Dieu, ça peut en être une. Si je veux incarner et vivre à l'exemple de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Et je veux être là pour servir là où c'est le plus humble. Et je veux être là pour servir mes frères et sœurs dans le but de servir Dieu. Si Jésus s'est humilié pour nous servir, est-ce qu'on ne devrait pas suivre cet exemple-là et le faire nous aussi? Finalement, la motivation pour le service, après avoir vu ces autres motivations par l'obéissance, la reconnaissance envers Dieu, la joie, l'humilité, on veut servir Dieu par amour. L'amour est, dans le fond, au cœur du service chrétien. Il dit, celui qui n'a pas l'amour, c'est rien. C'est une cymbale qui résonne. Donc, on a besoin d'être animé par l'amour. L'amour devrait nous motiver pour le service. Et sans amour, n'importe quelle forme de service serait de l'hypocrisie. L'amour nous motive et nous encourage à servir Dieu avec ferveur. Donc, si je veux servir mes frères et sœurs, puis que j'ai de la difficulté, Seigneur, donne-moi de l'amour pour eux. De la même façon que toi, tu nous as aimés, puis que nous qui étions tes ennemis, tu étais prêt à venir nous servir. Donne mon cœur, un cœur comme le tien, pour que je sois prêt à venir et aimer mes frères et sœurs. Il y a un pasteur qui a dit récemment, « Le chemin vers un plus grand amour pour les autres commence avec une appréciation de plus en plus grande pour la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. » cet amour brille puissamment dans l'évangile de son Fils. Et si on veut vivre l'amour envers les frères et sœurs, on a besoin de s'arrêter et considérer l'amour de Dieu pour nous. Et là, je commence à faire le lien entre mon intimité avec Dieu, ma relation avec Dieu, puis le service. Parce que mon service, il doit être motivé par l'amour de Dieu. Puis comment l'amour de Dieu vient dans mon cœur? C'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'amour de Dieu est répandu abondamment sur nous par l'Esprit qui est en nous. Mais je dois m'approcher de Dieu pour avoir un cœur de plus en plus sensible à l'amour que Dieu a versé en nous pour nos frères et sœurs. Et donc, le service, l'idée que le Seigneur me demande de le servir, devrait m'encourager à m'approcher de lui pour développer ces attitudes, cet amour pour mes frères et sœurs qui vont aller vers lequel je vais aller dans le service, avec lequel je vais servir. C'est l'amour de Christ qui, encore une fois, nous pousse à servir dans l'amour. 2 Corinthiens 5, 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Notre amour pour ce que Christ a fait, notre amour pour Jésus-Christ lui-même, sa personne, nous motive à le servir, à servir nos frères et sœurs. Notre amour pour Dieu, c'est ce qui nous motive à servir. Le Seigneur nous a donné ce commandement de l'aimer de tout notre cœur. Donc, si on aime Dieu, on aime aussi nos frères et sœurs. On entre dans le service. Notre amour, dans le fond, pour les chrétiens, c'est notre motivation pour le service. Galates 5, 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Ce qui devrait motiver notre service, c'est l'amour de Christ pour nous, l'amour que l'Esprit de Dieu met en nous pour qu'on puisse passer à l'action. Et donc, il y a réellement un problème si mon intimité avec Dieu grandit, mais que ça ne se traduit pas dans des actions concrètes qui démontrent l'amour envers les frères et sœurs à travers le service. C'est impossible d'être près de Dieu, en l'intimité avec Dieu, puis de dire, moi je glorifie Dieu sans être en train de servir. Parce que notre service découle de cette intimité avec Dieu, parce que Dieu nous demande de le servir. Et Dieu nous demande, et par l'amour qu'il nous a manifesté, on s'en va et on veut servir. Donc ça, c'est nos motivations. Qu'est-ce qui devrait être nos motivations pour servir Dieu, servir nos frères et sœurs? Et donc, suite à ça, on réalise que Dieu nous a tous équipés pour le servir. Il nous a pas laissé, il nous a pas juste sauvés, il nous a lavé de nos péchés, puis il nous a laissé là. Il dit, regarde, c'est beau mon ami, tu as ton billet pour aller au ciel, c'est réglé. Non, le Seigneur a décidé de donner son esprit qui vit en nous, puis son esprit qui nous équipe avec des dons particuliers. Alors, quand on vient, on est venu à Christ, on a reçu l'Esprit de Dieu qui nous donne à chacun des dons pour l'édification du corps de Christ. Et on a vu ça avec notre frère Basile la semaine passée. On est un corps qui, ensemble, sont là pour servir. Un membre ne peut pas dire à l'autre, « J'ai pas besoin de toi. » On a tous besoin les uns des autres. Et dans un sens, selon les dons que le Seigneur nous a donnés, on doit être là pour servir. 1 Corinthiens 12, il y a une diversité de dons, mais le même esprit, un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, le Seigneur nous donne des dons par l'Esprit de Dieu, des dons particuliers. Et là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais c'est ça, mais moi, ça fait des années que je suis chrétien, mais je ne sais pas c'est quoi mon don. » OK? Qu'est-ce qui en suit? Ben, souvent, ce qui en suit, c'est, ben, vu que je ne sais pas c'est quoi mon don, ben, je ne peux pas vraiment servir. J'attends que Dieu me dise c'est quoi mon don. Eh boy, tu vas attendre longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu, dans un sens, nous a donné l'Esprit de Dieu. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as déjà un don particulier. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu peux le mettre au service déjà. Tu peux déjà te mettre au service. Mais comment qu'on découvre nos dons? C'est souvent en étant en train de servir. À un moment donné, Je veux dire, moi, je donne souvent cet exemple-là. Quand j'étais au secondaire, là, hey boy, les exposés oraux, là, je pense que j'étais le plus poche de la classe là-dedans. C'est n'importe quoi, là. C'est comme préparé à la dernière minute, puis pas prêt à livrer quoi que ce soit. Puis regarde, arrivé en avant, là, puis la voix tremblait. Puis ça m'a suivi jusqu'à l'université. Je me souviens, à l'université, j'avais des exposés. Puis j'en avais fait un au cégep. Les gars, ils ont dit, « Alex, il dit, t'as tellement roulé là, que ça a pris 10 minutes ce que tu devais faire en une demi-heure. » Là. Il l'avait pas peur tout, le gars. Là. Puis il disait, un de mes chums, il disait, « Hey, man, Alex, respire, là, respire, parce que tu vas mourir là. Là. » À travers le service dans l'Église, moi, j'ai commencé assez jeune. J'ai grandi dans l'Église. À 16 ans, il y a un monsieur à l'Église qui vient me voir. Il dit, « Alexandre, il dit, j'aimerais ça faire une équipe de placeurs jeunesse. » Ouais. Il dit, « J'aimerais ça que tu sois responsable de ça. » Et boy. Oh, responsable d'une équipe de placeurs, c'est OK, je peux bien le faire. Si tu me demandes, je vais être là. Hein? Une équipe de les placeurs, là. Les placeurs qui sont à l'entrée, qui donnent les bulletins, qui aident les gens à s'asseoir. Il voulait faire une équipe de placeurs avec la jeunesse, avec des jeunes hommes, OK, de mon âge. Et puis, à l'église où on était, ben on a déjà fait ça, même dans le passé ici. Ça arrivait des fois que celui qui, dans le fond, on invitait les placeurs à s'avancer, puis le dirigeant de louange, des fois, il demandait à un des placeurs de prier. Là, on était à une grande église là, à Québec, là, dans ce temps-là, 450, 500 personnes. Là. C'était une assez grande église. Et là, à 16 ans, tu avances avec ton petit panier. « Alexandre, veux-tu venir prier? » Eh boy! Non, là, c'est comme... Non, c'était. Mais avec le temps, je suis arrivé à l'église ici. Le Seigneur m'a utilisé être un leader parmi la jeunesse quand je suis arrivé. J'avais une vingtaine d'années. Puis tranquillement, en prenant des cours avec M. Gazdic sur comment on étudie la Bible, comment on l'interprète, comment on prépare des études bibliques, tranquillement, bien, j'ai amené à enseigner à la jeunesse, des petits groupes. Puis après ça, quelqu'un me demande, hey, « Tu peux-tu me remplacer à l'école du dimanche? » Oh boy, là, il faut que j'enseigne aux adultes. Là, j'avais 21, 22 ans. Seigneur, c'est ça que tu veux. Je suis là. Je suis disponible. Alors, le Seigneur m'a fait grandir. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai encore de la misère. Là, mais des fois, là, je me demanderai à ma femme le dimanche matin où est-ce que j'enseigne, où je prêche. Des fois, c'est comme, man, c'est pas moi ça. C'est comme, c'est la dernière affaire que je voudrais faire. J'aimerais bien mieux aller laver le plancher, moi. Là, je suis bien, là. Mais le Seigneur m'a équipé. Puis j'ai découvert à travers le service que le Seigneur m'appelait à faire cette œuvre-là, d'enseigner, d'apporter la prédication de la parole. Même si ce n'est pas naturel chez moi, je pense que le Seigneur m'a équipé pour ça. Le Seigneur équipe son Église avec des dons particuliers. Puis c'est en étant disponible pour servir qu'on découvre c'est quoi nos dons. Si j'avais dit, « Oh non, 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 moi, c'est pas pour moi ça. Non, je ne veux pas faire ça. Allez, prier en avant. Jamais, je ferai ça, jamais. » Le Seigneur a mis des situations, je dis, OK, je vais le faire. Je ne poursuivais pas ça, mais le Seigneur l'a mis, puis avec le temps, le Seigneur a fait grandir un fardeau sur mon cœur. Donc, on a besoin d'être au service pour découvrir quel don particulier le Seigneur nous donne. Et dans 1 Pierre 4, versets 10 et 11, le Seigneur nous appelle encore une fois à mettre au service des autres les dons qu'on a reçus, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, et à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Lorsque je suis là pour servir, les frères et sœurs, avec les dons que Dieu me donne, qu'est-ce que je suis en train de faire? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Quand j'entre dans le service, je suis en train de glorifier Dieu. Et notre désir, notre amour pour Dieu devrait nous pousser là, à vouloir servir. Comme chrétiens, le service se fait avec les dons que Dieu nous donne. Et ces dons-là, on les met en œuvre dans l'église locale, pour servir les frères et sœurs. Un rêve que j'ai, puis je pense qu'on grandit là-dedans, c'est une église locale qui manifeste l'évangile de Jésus-Christ à travers le service. On peut être une église qui proclame l'évangile du haut de la chair. On peut être utile même dans des ministères où on est en train de proclamer l'évangile. Mais une des choses à travers laquelle Jésus nous a dit qu'on était des témoins, c'est à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres. On a lu tout à l'heure dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous allez être des témoins de Jésus-Christ. Vous allez être mes témoins en exerçant l'amour les uns envers les autres. Avec une église en santé, c'est une église qui vit l'Évangile pleinement. Pas juste qui l'a compris, qui l'a saisi, qui en parle, mais c'est une église qui le vit au quotidien et qui le vit à travers l'amour les uns pour les autres. Notre amour les uns pour les autres devient un témoignage de l'Évangile pour la gloire de Dieu et pour la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une église qui contribue à faire connaître l'amour de Christ. Donald Blush, un des théologiens évangéliques américains, nous rappelle que la poursuite de la sainteté puis des disciplines spirituelles ne devrait pas être un prétexte pour être séparé et isolé du monde. Plutôt, elle devrait être considérée comme un moyen de vaincre le monde. Non pas le renoncement à vivre dans le monde, mais le service dans le monde. Et donc, le point ici, c'est lorsque je disais tout à l'heure, on veut poursuivre la sainteté, on veut grandir à l'image de Christ. Mais cette poursuite-là a produit du fruit, puis a produit du fruit dans l'Église et dans le monde. Jésus a dit, soyez le sel de la terre, la lumière du monde. Comment? En exerçant des bonnes œuvres, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Hey, il y a quelque chose qui se passe dans cette Église-là, là. Ça, c'est pas normal, cette communauté-là, dans notre société, où ce que tout le monde fait sa petite affaire, chacun de son côté. Eux autres sont ensemble. Eux autres, ils s'aiment. Eux autres, ils sont en train de se servir. Hey, des jeunes qui vont servir à bouffe pour tous. Des jeunes de 20 ans. Les bénéficiaires à bouffe pour tous, à toutes les semaines que le groupe de jeunes est là, sont là. C'est quoi qui se passe, c'est? C'est des jeunes en train de nous servir. Il n'y en a pas juste des jeunes, il y en a des moins jeunes aussi. Ça dit quelque chose. Il se passe de quoi, là, ici, là? Pourquoi tous ces jeunes-là? Il y a quelqu'un qui met les pieds dans l'église. Souvent, ce que j'entends, les gens viennent mettre les pieds dans l'église ici pour la première fois. Il y en a donc bien des jeunes ici. Et, il y en a avec des tatous, puis toute la quête. C'est quoi cette histoire-là? Il me semble des tatous. On ne devrait pas voir ça. On ne voit pas ça à l'église, normalement. Parce que Dieu fait une œuvre d'amour ici. Il y a des gens qui sont ailleurs, complètement ailleurs, dans des problèmes dans notre société. Mais lorsqu'on va les rejoindre avec l'amour de Dieu, qu'on leur manifeste puis qu'on leur parle de l'Évangile, ils viennent. Puis on voit, oui, des gars avec des gros bras, des gars avec des tatous qui avaient une autre vie. Puis je ne ferai pas une histoire avec les tatous ce matin, là, mais c'est juste une idée. Des fois, les gens ont été marqués. La fille est là. Hey! Il y a un tatou, lui. Il y a ça dans l'Église. Les gens, c'est juste, ils font pas le lien. Hein. Ils voient l'Église comme quelque chose de complètement à part. Mais là, les gens de la culture, les jeunes viennent à l'Église, puis c'est une Église jeune ici. Gloire à Dieu, parce que je pense qu'un des mandats qu'on a, c'est de rejoindre notre culture, nos jeunes, avec l'Évangile. Puis toutes les générations, en fait. Mais le point ici, c'est que lorsqu'on vit l'amour les uns pour les autres, il y a un témoignage qui se dégage de ça. Et on devrait voir des générations s'aider, puis se parler, puis être à l'œuvre ensemble. Des jeunes qui vont aider des moins jeunes, puis des moins jeunes qui aident des plus jeunes. Puis qui, une Église unie dans l'amour manifeste l'Évangile. C'est Jésus qui a dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Là où il y a une église puis ses membres qui démontrent un amour ardent les uns envers les autres, il y a une église qui est vivante dans son témoignage. Pas juste un témoignage en parole, mais en action. L'amour démontré en action par le service, c'est une de nos motivations pour grandir dans la sainteté. Si on veut servir, on a besoin de grandir dans la sainteté. Parce que quand je m'en vais servir mon frère, ma sœur, qui a ses faiblesses, qui a ses péchés. Puis que le service n'est pas tout le temps évident envers cette personne-là. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin que le Seigneur me sanctifie moi. Honnêtement, là, quand on vit des conflits les uns envers les autres, là, souvent on prie, « Ah, Seigneur, change son cœur. » Pas son cœur, il a besoin d'être changé. Oui, peut-être, mais premièrement, c'est le tien. Change mon cœur pour que je puisse l'aimer malgré ses faiblesses, malgré ses péchés, puis que je sois prêt à servir. Jésus, là, il a lavé les pieds à Judas, qui allait le rejeter, qui allait le livrer, celui qui l'a trahi. Puis des fois, on n'est pas prêt à servir quelqu'un qui n'a même pas été jusque-là, même pas été jusqu'à la trahison, juste un conflit. « Ah, moi, cette personne-là, tu sais, c'est difficile. Je prie pour elle. » Non, prie pour toi. Prie pour que le Seigneur te change pour aller servir cette personne-là qui est plus difficile. Et là, le lien entre la sainteté et le service. « Seigneur, fais-moi grandir dans un amour comme le tien pour que je puisse être au service de mes frères et sœurs, même ceux qui sont plus difficiles. Même ceux qui sont plus difficiles. Puis que je puisse les aimer comme toi, tu nous as aimés. » C'est ce qu'on devrait chercher. Dans notre intimité avec Dieu, dans notre poursuite de notre amour pour Dieu, Seigneur, change-moi pour que j'aie un cœur comme le tien, que je sois prêt à servir. On doit chercher à marcher humblement avec Dieu, chercher à pratiquer des bonnes œuvres pour sa gloire, chercher à lui obéir et inévitablement se mettre au service les uns des autres. Comme ça, on va être en train de montrer l'amour de Christ au monde. Une église qui manifeste l'Évangile au monde, c'est une église qui vit dans la sainteté devant le Dieu saint. Premièrement, si on applique l'Évangile dans nos vies. Puis je veux juste faire, lorsqu'on présente l'Évangile, on parle souvent de Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, la création. Après ça, on parle de l'homme, on est la création de Dieu. Qui je suis, moi, devant Dieu? Je suis sa création, créée à l'image de Dieu, mais il est arrivé quelque chose dans ma vie, dans la vie de l'humanité. Le premier homme a péché, il est tombé, puis il y a une séparation. L'homme qui vivait une relation avec Dieu, cette séparation-là est arrivée à cause du péché. Et là, on est mal pris, on était séparés du Dieu saint. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a manifesté son amour en Jésus-Christ pour venir rétablir, réconcilier ce qui avait été séparé. Jésus, en étant livré à la croix, était parfaitement homme, parfaitement Dieu, a vécu une vie sainte. Il s'est livré à la croix. Il a reçu sur lui ma condamnation. Il a pris sur lui mes péchés pour que je puisse avoir le pardon puis être réconcilié avec Dieu. Puis maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je reconnais qu'il est Seigneur puis je veux le servir maintenant. Je ne veux plus vivre comme avant en étant rebelle, mais plutôt en me tournant vers le Dieu saint puis en voulant le servir. Mais une église qui manifeste ça, qu'est-ce que c'est? C'est une église qui vit dans la sainteté devant le Dieu saint. On réalise qui est Dieu. On en a parlé au début. On réalise qui est Dieu. Il est saint et il exige que nous soyons saints nous aussi. Alors, on cherche à grandir dans la sainteté. Une église qui vit l'Évangile puis qui manifeste l'Évangile au monde, c'est une église qui reconnaît puis qui confesse ses péchés, ses faiblesses dans l'expression de son amour pour Dieu, pour les frères et sœurs. Donc, j'ai des faiblesses, j'ai mes péchés, puis je veux les confesser, je veux être prêt à les admettre. C'est pas à cause que je suis rendu un chrétien que là, tout est réglé. Non. Si je vis l'Évangile au quotidien, je réalise mes faiblesses, puis je fléchis le genou devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon à chaque jour, parce que je tombe encore. Alors, on est en train d'admettre qu'on est faible, comme tout le monde, comme le reste du monde. Je ne suis pas mieux que toi, là, tu sais, quelqu'un qui est sans Christ, je ne suis pas mieux que toi, moi, j'étais à la même place que toi. Mais un jour, j'ai compris quelque chose que Dieu s'est révélé à moi à travers Jésus-Christ. Il a donné son amour pour moi, il s'est livré en sacrifice. Puis là, je suis réconcilié avec Dieu, mais je lutte encore. Et on ne doit pas gêner de parler de ça. Ça est arrivé des fois, j'ai péché contre un collègue de travail. Je me suis mis en colère contre un collègue de travail. Je me souviens de cette fois-là. Eh boy! Là, après, j'avais prêché l'Évangile à ce gars-là. Quel témoignage, mon ami! Qu'est-ce que j'ai fait? Allez le voir. J'ai péché. Je me suis mis en colère tantôt contre toi, puis c'était pas bien ça. Je veux te demander pardon pour ça. Le gars, de quoi tu parles, toi, là? Venir me demander pardon parce que tu t'es mis en colère. Je veux vivre l'Évangile. Je te parle de l'Évangile, je suis en train de le vivre. Tu vas le voir dans ma vie. Ça veut dire que je suis prêt à confesser mes péchés, même après, auprès de ceux qui ne comprennent pas c'est quoi. Confesser mon péché. Puis là, après ça, quand j'y parle de mes faiblesses, puis j'ai dit, je suis un être humain, j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Là, il commence à réfléchir. Une église qui vit l'Évangile, c'est une église qui vit dans la sainteté devant le Dieu Saint. C'est une église qui reconnaît, qui confesse ses péchés, ses faiblesses, puis dans le fond, ses faiblesses dans l'expression de l'amour pour Dieu, puis, puis son prochain, ses frères et sœurs. Mais c'est une église aussi qui répond à l'amour de Christ, puis qui vit dans l'unité, dans l'amour et l'humilité. L'amour, comme Jésus m'a aimé, moi je vais aimer mes frères et sœurs. Je comprends que sans l'amour de Christ, je serais perdu. Mais à cause de son amour, maintenant, je veux le montrer. Une église qui vit l'Évangile, c'est une église qui répond à l'amour de Christ en cherchant l'unité, dans l'amour, dans l'humilité, puis qui manifeste l'amour en étant au service des frères et sœurs. C'est une église qui saisit le pardon en Jésus-Christ et qui, en retour, malgré les péchés, les faiblesses des frères et sœurs, va démontrer le pardon envers eux. J'ai mes faiblesses. Mais je suis conscient aussi que mon frère, ma sœur a ses faiblesses. Puis quand c'est difficile de le servir, qu'est-ce que je veux manifester? Je veux pardonner comme Christ m'a pardonné. Et je veux vivre ça. Je vais manifester l'Évangile quand je vais manifester le pardon envers mes frères et sœurs. Comme Christ m'a pardonné. Comme Dieu m'a pardonné en Christ, je dois pardonner mes frères et sœurs. Et cinquièmement, une église qui vit l'Évangile, c'est une église qui entre dans sa mission de former des disciples à travers le monde. Dans l'amour les uns envers les autres, à travers l'amour qu'on manifeste les uns envers les autres, on devient des agents, des témoins de Jésus-Christ. On a besoin d'ouvrir la bouche, on a besoin de présenter clairement l'Évangile, mais ça doit être accompagné d'œuvres bonnes qui sont à la gloire de Dieu. Et donc, on doit entrer dans cette mission de former des disciples dans l'amour et en proclamant l'Évangile. Donc, servir, ça demande des efforts. On a besoin de se mettre à l'œuvre. On a besoin de parfois se discipliner pour entrer dans le service puis servir Dieu. Mais Dieu aime ceux qui le servent avec un cœur entier. Il ne veut pas juste la moitié de notre cœur. Il veut tout notre cœur, dévoué à lui. Il veut qu'on soit là pour le servir. Puis se discipliner d'entrer dans le service pour Dieu, ça veut dire qu'on doit mettre du temps à part dans notre horaire, puis dire, Seigneur, je veux te servir, je veux être au service de mes frères et sœurs. Ça peut dire prendre des décisions parfois avec la gestion de notre horaire, mais on veut investir notre énergie à servir Dieu en servant nos frères et sœurs. Donc, Dieu veut qu'on le serve. Quelques questions pour vous, puis vous pourrez réfléchir. Avez-vous perdu votre motivation dans le service? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus le goût de servir dans l'Église? Qu'est-ce qui fait que je suis démotivé parfois? Ça m'arrive. Des fois, je dis, je cherche la motivation. C'est rien, nulle part ailleurs que dans l'Évangile que je trouve ma motivation. Alors, je retourne à l'Évangile. Êtes-vous engagé dans le service en servant dans un ministère? Qu'est-ce qui vous empêche d'embarquer et de servir? De démontrer votre amour pour Dieu en vous engageant dans le service? Puis comment, si vous êtes dans le service, comment est-ce que vous pourriez améliorer votre service pour Dieu? Est-ce que l'amour doit, le Seigneur a besoin de changer vos cœurs pour que vous manifestiez plus d'amour dans votre service? C'est des questions auxquelles vous pourrez réfléchir. Mais le but à travers ça, c'est que tous connaissent qu'on est les disciples de Christ et qu'on vit pour la gloire de Dieu. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Seigneur Jésus, lorsqu'on considère tout l'amour que tu as manifesté pour nous, on ne peut pas faire autrement que de dire, « Me voici, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi là où tu as besoin, où tu veux que je serve. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous. Tu es tout puissant, tu peux tout accomplir, tu peux utiliser toutes sortes de circonstances pour accomplir ta volonté, mais tu as décidé de te servir de nous dans ton œuvre. Puis à travers ça, on a de la joie, Seigneur. On veut te remercier pour ça. Alors, Seigneur, viens changer nos cœurs pour qu'on puisse exercer l'amour les uns envers les autres, exercer l'amour dans le monde pour qu'on puisse être, les gens puissent voir ta gloire à travers nous, voir que nous sommes tes disciples et que ça puisse contribuer à ta gloire, Seigneur. Viens bénir le temps qu'on va avoir ensemble dans la célébration, à travers les louanges, en se rappelant aussi ce que tu as fait pour nous à travers le repas du Seigneur. Bénis-nous aussi dans la prédication de ta parole et que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est pour ta gloire et au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.